Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. La reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Laurent et Laurette Costi sur le thème Common Voice, la voix de son maître. Et également en début d'émission, la chronique d'Antanac sur la rentrée d'Antanac. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. C'est la seconde émission de la saison 6. Dans les nouveautés, une personne rejoint l'équipe des chroniques. Son nom, il vous sera révélé bientôt et sa première chronique aura lieu mardi 20 septembre. Un indice, il est peut-être superflu de le préciser, mais la personne est grisée par l'idée de participer à Libre à vous. Peut-être que cette phrase vous donnera des idées. Nous vous proposons de vous suggérer également des sujets pour notre émission de radio sur les libertés informatiques, voire la possibilité d'intervenir ou peut-être même de préparer et animer un sujet principal. Plus de détails sur le site libreavoue.org, partie actualité. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider si besoin à chasser vos doutes et vos craintes. Pour nous contacter, rendez-vous sur le site libreavoue.org ou par courriel à contact@libreavoue.org. Le site web de l'émission c'est libreavoue.org, donc vous y trouvez une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toute question. Nous sommes mardi 13 septembre 2022, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, la reine de la réalisation et de l'animation radio et sans doute pour longtemps encore, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour Isa.
Bonjour Fred, bonne émission.
Merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libère d'autres que du logiciel? C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le sujet du jour, c'est l'actualité, hein, la rentrée d'Antanac. Bonjour Isabelle.
Bonjour Fred, bonjour à tous. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un seul sujet aujourd'hui, comme c'est la rentrée. On n'a d'une part pas vraiment eu le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on avait envie de mettre en avant. Ce sera pour le mois prochain. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit point de voilà, où est-ce qu'on en est, les actualités, et qu'est-ce qui va être prioritaire là pour cette rentrée. Ben, la première chose, c'est qu'on a déjà fait un événement en tout début septembre avec toute une organisation qui a été faite pour des étudiants et étudiantes. Et ça nous confirme bien les besoins constants d'ordinateurs reconditionnés. On a donné en une seule fois là, plus de 35 ordinateurs. On était en contact avec des gens de l'université de Paris 8, Saint-Denis. Des gens adorables qui nous ont aidés à monter cette opération-là. Et également des gens d'une mutuelle, la Massif, pour ne pas la citer, qui avaient décidé d'abonder à chaque fois qu'un étudiant, une étudiante versait une adhésion à Antanac, d'abonder sur le même montant. C'est plutôt pas mal, ça représente quand même une petite somme pour nous. Puis c'est quand même intéressant aussi de pouvoir payer son loyer et l'électricité et les quelques matériels qui sont nécessaires pour le reconditionnement. Et donc c'était vraiment bien. En plus, c'était tous les mêmes ordinateurs. On avait reçu un don très sympathique d'une entreprise qui avait fait vraiment un très, très joli travail. La DSI avait bien bossé pour écraser elle-même les données, etc.
La direction des services informatiques.
Merci Fred. Heureusement que tu es là pour...
Tu croyais que je ne t'écoutais pas.
Ah non, j'ai pas pensé ça. Maintenant que tu es là pour me rappeler qu'effectivement, parfois on utilise comme ça des acronymes et puis on n'est pas assez transparent et partageant. Voilà. Et donc on a installé évidemment une distribution libre de mémoire. Je crois que les gens avaient décidé de mettre du Xubuntu sur celle-là. Donc on avait les 35 ordinateurs identiques, 8 gigas de RAM, écran tactile, enfin, tout du beau, du chouette matériel pour les étudiants et étudiantes qui étaient ravis. Donc ça c'est bien et donc ça nous fait imaginez qu'on pourrait faire d'autres événements de même nature, comme ça en groupant. C'est assez sympathique de donner à plusieurs personnes à la fois. Et puis, par contre, on a refait le décompte pour la rentrée et on a, sur notre liste d'attente, 94 personnes, très exactement, qui nous ont demandé un ordinateur reconditionné et qui donc attendent qu'on les rappelle pour leur dire « Ça y est, il y en a un de prêt pour toi, tu peux venir ». Voilà, donc ça continue. Le premier constat de la rentrée, c'est ça continue comme avant l'été et avec toujours autant de demandes. Sur un autre sujet qu'on a abordé ici plusieurs fois, l'écrasement des données, je voulais d'abord remercier tous les auditeuristes qui m'ont envoyé des messages. J'étais vraiment touchée, je trouvais ça vraiment, vraiment sympathique. D'abord, ça fait plaisir de voir qu'on est écouté sur des choses, puis que du coup, des gens partagent ces problématiques-là pour de bon, soit dans leur quotidien, soit intellectuellement, soit politiquement, peu importe d'où. Mais en tout cas, c'était vraiment plaisant. Merci beaucoup à elle et eux. Et donc, pour répondre au global, même si j'ai fait des réponses évidemment à chacun, chacune, on n'avance pas aussi vite que j'aimerais, mais peut-être je suis trop impatiente toujours. On va finir par y arriver. C'est-à-dire que, voilà, là, il y a plusieurs Antanakiens qui sont en train d'écrire précisément les choses, en développement, mais aussi en documentation de ce qu'ils développent, pour pouvoir apporter la preuve de l'écrasement et de la bonne fin des opérations, et pouvoir donner quelque chose, et continuer à avoir les discussions avec l'ANSSI, et voir comment on peut faire pour avoir les 30 000...
L'ANSSI.
Si je sais. Agence.
Nationale.
Nationale.
De la sécurité. Des systèmes. D'information.
Voilà, avec qui on avait été en contact et qui nous avait donc donné les coordonnées des laboratoires. Et un laboratoire nous avait dit c'est 30 kilos euros pour pouvoir faire certifier un logiciel complètement et qu'il soit ainsi accepté par les entreprises de nous donner du matériel sur lequel les données ne seraient pas effacées, écrasées. Voilà, donc on avance tout doucement, mais on va finir par y arriver. Le troisième sujet de rentrée, c'est évidemment les permanences d'écrivains numériques publics. Donc, comme tous les ans, on poursuit nos permanences dans notre local pour accompagner et aider les personnes dans les démarches qu'elles doivent réaliser selon les injonctions administratives et la soi-disant dématérialisation de tout cela qui est plutôt une déshumanisation des relations, mais bref. Voilà, on a toujours autant de demandes, les rendez-vous sont pleins d'une semaine sur l'autre. La nouveauté, là, cette année, c'est pour la rentrée, c'est qu'on a ouvert à la demande d'une directrice d'école primaire du 18e. Elle nous a demandé de l'aider et de soulager, elle, de tout le temps qu'elle passe pour débroussailler des sujets administratifs pour des familles et des parents qui n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes et qui l'empêchent du coup d'être là où elle doit et veut être avec son équipe pédagogique et peut-être aussi avec les enfants, ce qui peut être pas mal pour une directrice d'école. Parce que les sites comme les ENP, espaces numériques de travail, t'as vu, là, j'ai pensé à le dire, Fred, sont une trouvaille assez démoniaque. Heureusement, cette directrice est vraiment dans un état d'esprit intéressant parce qu'elle refuse de mettre dessus les notes, les appréciations, les emplois du temps, etc. Elle veut garder tout ça réellement dans le partage sur des cahiers ou dans les contacts mammifères avec les gens et les parents. Mais elle veut bien quand même, de temps à autre, faire passer un message global pour les 200 familles en une seule fois et pour ça, de se servir de l'espace. Encore faut-il que, pour cela, les gens aient ouvert leur espace en question sans perdre les identifiants qu'on donne en début d'année, et puis qu'ils sachent s'en servir, qu'ils puissent aller sur Internet, qu'ils veuillent le faire, etc. Et là, notre permanence, du coup, c'est non pas de forcer pour que qui que ce soit, se sente obligé d'eux, mais en tout cas expliquer, montrer que c'est faisable, possible ou pas, et discuter avec les gens de ce qu'ils peuvent ou pas faire sur ces sujets-là. Il y a un autre site aussi qui est très intéressant qui s'appelle Facile Famille. Facile, tu parles d'un nom. Là-dessus sont informatisées toutes les démarches sur Paris pour toutes les crèches, les garderies, les centres de loisirs, la cantine, les études, les frais scolaires, etc. Je ne sais pas si toutes les grandes villes se sont dotées d'un tel outil, mais en tout cas, là, c'est mis en place par la DASCO, la Direction des Affaires Scolaires, et ça vaut son pesant de cacahuètes parce que c'est bien entendu pour faciliter, comme son nom l'indique, les démarches, centraliser toutes les données. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont stockées, ces données-là, mais bon, ça pourrait être une question à poser à la mairie. J'ai rapidement regardé, il y a d'autres villes qui ont un même portail, de même acabit, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la moindre erreur ou un manque de précision dans les informations transmises, ça peut amener à une surfacturation ou un enfant qui ne sera pas accueilli dans un centre de loisirs, etc. Donc là aussi, pareil, cette permanence va permettre d'aider sur ces sujets-là. Notre autre sujet de rentrée, c'est les questions des D3E. Là, ça n'est pas résolu, D3E, donc là, on le sait, là, D3E, non, faut dire aussi, les déchets électroménagers, électroniques, électriques, etc. Bref, tout ce qui nous reste, une fois qu'on a reconditionné, nous-mêmes, on en produit des déchets. Alors, je sais bien qu'il y a des élans un peu partout, de plusieurs sur la sobriété, qui devient un mot à la mode. J'espère que pour autant, il ne sera pas vidé de son sens. On espère que ça va avoir des effets, et on peut penser que de plus en plus de personnes sont sensibles à la question du réemploi, du reconditionnement, plutôt en termes de pas de gâchis et pas encore avec beaucoup une vraie conscience du nombre de produits de base qui constituent un ordinateur. Mais enfin, bon, c'est un petit début. On espère que ça va avancer dans ce sens-là. Les ateliers de formation reprennent aussi cette semaine. Et puis sur le reste de la vie de l'association, on va rester encore un petit peu là parce que de toute façon, on ne nous a pas proposé de local ailleurs. Donc on va rester ici, même si on n'est pas... Voilà, c'est pas obligatoirement le mieux, puis on n'a plus de place, mais on va rester là. Et alors, je fais une annonce pour une fois n'est pas coutume, mais comme c'est la rentrée, je peux me permettre, on a enfin lancé une page sur Hello Asso. Parce qu'on a eu un peu eu peur en milieu d'année, juste un peu avant l'été, là, avec des problèmes financiers un peu conséquents. Et du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Donc, il y a une page Hello Asso en Tanac, sur laquelle, c'est bienvenu, s'il y a un petit coup de pouce ou une aide. Et puis, évidemment, les aides, enfin, c'est je répète sans doute, mais. C'est une asso qui est ouverte, c'est-à-dire que qui que ce soit qui a envie de venir faire un peu du reconditionnement, de nous donner un coup de main sur une chose ou une autre, ou qui a envie de monter un atelier, etc., sera la bienvenue. Merci beaucoup.
Écoute, merci Isabelle. Alors, quand tu dis vous restez là, je vais préciser que c'est au 18 rue Bernard Dimet dans le 18e. Uh-huh. Le studio de la radio, c'est au 22, donc nous sommes voisins et voisines. Et ce vendredi, d'ailleurs, 16 septembre 2022, nous organisons à la fois une journée porte ouverte au studio, donc de 10h jusqu'à tard, et un apéro en fin de journée, et je crois que tu seras présente.
Absolument, je serai là.
Et donc, si des gens veulent rencontrer Antanac, soit elles viennent au 18 rue Bernard Dimet au jour d'ouverture, vous regardez sur antanac.com, Antanac, c'est avec un K, et sinon, vous pouvez venir vendredi, notamment pour en fin de journée, pour rencontrer Isabelle Carrère et les gens d'Antanac, et les autres animateurs et animatrices de la radio.
Super, merci Fred.
Écoute, en tout cas, c'est moi qui te remercie. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. En attendant, nous allons écouter Sacrifice par Hello Lortomy. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
venons d'écouter Sacrifice par Hello Lortomy, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution 4.0. Hello Lortomy est un beatmaker français. Je vous renvoie sur la page libreavoue.org, il y a un lien vers une interview qu'il a donnée il y a quelques mois au site Au Bout du Fil. Nous allons changer de sujet.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Donc nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos deux invités, Sarah Cohen de Boulakia. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et j'allais dire Tanguy Le Carour, non mais je préciserai qui est Tanguy tout à l'heure. Et Conrad Insen, bonjour Conrad, je vous demanderai de préciser un petit peu après. Je précise, bon, en fait il y a une troisième personne dans le studio, c'est Tanguy Le Carour qui a grandement aidé à préparer cette émission. Tanguy qui travaille notamment pour l'entreprise libriste Easter Eggs qui héberge la prime, hein, qui nous héberge nous, et qui est l'un des organisateurs des 10 ans de Geeks dont on parlera en fin d'émission et qui ont lieu à Paris en fin de semaine. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, soit par téléphone, si vous voulez, au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Alors l'idée de cette émission est venue suite à une émission il y a quelques mois, en février 2022, sur la science ouverte, dans laquelle l'un des intervenants, suite à une question sur les possibles bugs de logiciels utilisés dans la recherche, et utilisés partout dans les logiciels, est-ce que ça pouvait avoir un impact? Et évidemment la réponse était oui, et cet intervenant n'est pas rentré dans les détails, mais par contre a exprimé utilisé l'expression de reproductibilité logicielle ou reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Donc on s'est dit, on va consacrer ce sujet, un sujet de cette émission, à ce thème-là, à la fois la reproductibilité en général pour que vous compreniez l'importance, et puis après évidemment précisément des environnements logiciels, et puis des solutions éventuellement qui existent. Mais d'abord, première question, on va commencer par une présentation de deux personnes invitées. On va donc commencer par Sarah Cohen-Boulakia.
Donc bonjour, donc moi je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay, je suis professeure et je suis directrice de ce qu'on appelle un GDR, un groupement de recherche au CNRS, le Centre National Classique.
D'accord. Voilà. Conrad Insen.
Oui, alors moi je suis chercheur au même CNRS déjà cité, le Centre National de Recherche Scientifique et plus précisément au Centre de Biophysique Moléculaire à Orléans.
D'accord. Et toi, Sarah, ta spécialité, c'est plutôt quoi?
Alors, c'est plutôt la bioinformatique, d'accord, mais je suis informaticienne de formation.
D'accord. Alors, premier grand thème, on va essayer de... Alors, je précise voilà, que des gens arrivent sur le salon web, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Marie-Odile qui est traditionnellement présente, et Marie-Odile que je salue parce que c'est elle qui va faire la transcription de l'émission. Je rappelle que toutes nos émissions sont transcrites grâce au travail important de Marie-Odile Morandi. Moi, effectivement, tout à l'heure, je discutais avec une personne là-haut au studio qui me demandait quel était le sujet de l'émission du jour. Et je lui disais, ça va être la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Et j'ai bien senti qu'il n'avait jamais entendu parler de ce terme. Et c'est vrai que moi, depuis avant la mission de la science ouverte en février dernier, je n'avais pas forcément entendu parler de ce terme précis. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, la question, l'importance de la reproductibilité, déjà au sens large, dans la recherche? Qui veut commencer? Sarah,
ouais, je vais bien tenter. Ouais. Alors, disons qu'un des grands principes un peu de base qu'on va avoir en science ou en recherche, c'est qu'on va chercher à avoir une science qui est cumulative. On va se reposer sur des connaissances, sur des résultats qui sont préexistants. Ces résultats, il faut qu'ils soient solides. Il faut qu'on puisse les reprendre. Il faut qu'on puisse vraiment se baser dessus. C'est un peu comme un édifice. C'est important que les fondations soient solides. Et donc, la reproductibilité, c'est... En premier élément, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir des résultats qui puissent être validables par d'autres, par nos pairs, et donc reproduits par de tierces personnes.
D'accord. Conrad ?
Oui, c'est tout à fait ça. Donc c'est l'idée, c'est qu'on puisse construire là-dessus, mais qu'on puisse vérifier ce qui en fait d'autres. C'est aussi, comme on peut dire, je dis souvent, au terme d'ingénierie, c'est un protocole de correction d'erreurs. Parce que bon, tout le monde fait des erreurs, même avec des meilleures intentions. Et bon, parfois, il y a des gens qui font pas que des erreurs, mais aussi des modifications intentionnelles de la vérité.
Même dans la recherche?
Pour le dire gentiment, oui, malheureusement, des histoires de fraude font, ils sont pas si fréquents que ça. Il faut pas non plus exagérer. D'accord. C'est pas je crois que l'erreur est un problème beaucoup plus fondamental que la fraude aujourd'hui. Mais l'erreur, bah, évidemment, elle existe. Et comme tout le monde qui utilise l'ordinateur sait que bah, l'informatique aussi, c'est plein d'erreurs. Donc, en fait, l'idée de regarder ce qu'ils font l'autre, de passer derrière, vérifier, c'est toujours une bonne idée. Et donc, la répétabilité, si on fait ça, c'est l'idée qu'on puisse refaire l'expérience de quelqu'un d'autre, comparer si le résultat me paraît suffisamment proche pour qu'on puisse dire que bon, c'est bon, on a fait la même chose, on a fait le même résultat et on peut avancer et construire là-dessus.
Et c'est une base essentielle, je suppose, pour la confiance de tout le monde dans la recherche. Parce que tu parlais de fraude ou d'erreur. Mmh. Alors, les deux dernières années qu'on a vécues, il y a eu quand même beaucoup de remises en cause, ou en tout cas de questionnements par rapport aux différentes recherches qui ont pu être faites, etc. Donc, la reproductibilité, si je comprends bien, c'est une base essentielle pour que d'autres chercheurs et chercheuses puissent refaire les tests dans les conditions quasiment identiques initiales et pour valider les résultats obtenus, c'est ça ?
Alors, c'est l'idée. Bon, j'entends bien les problématiques de fraude, mais je voudrais quand même dire que les problèmes de reproductibilité qu'on a aujourd'hui, ce sont d'abord des erreurs ou des manques de traçabilité. Exactement. D'accord. Comme un chimiste qui ferait une expérience en laboratoire et qui, du coup, va se retrouver à avoir mal noté son pH, avoir mal noté sa température et, du coup, à vouloir la refaire le lendemain et elle ne fonctionne plus. Voilà, donc là on a cette problématique avec en informatique des données qui sont de plus en plus présentes, de l'informatique qui est de plus en plus dans nos sociétés, et se pose la question de je veux reproduire une expérience soit qui a été faite par un collègue, soit moi-même, au bout de quelques semaines, qu'est-ce qui va m'assurer que j'ai gardé la trace, que je sais comment refaire mon expérience à l'identique.
D'accord, et j'ai une question sur le salon web là, c'est est-ce que c'est la même chose que la revue par les pairs ?
Alors, non.
Non ?
Non, c'est plus technique que ça. La revue par les pairs, c'est particulièrement important. Le fait de justement pouvoir relire un article scientifique, ça fait partie d'être lu par des collègues, ça fait partie évidemment du processus scientifique. Mais quand on vise à être reproductible, on vise plus fort que ça, c'est-à-dire qu'on demande aux pairs qui nous relisent d'être capables de reproduire la même figure, par exemple, qu'on aurait mis dans un article sur leur machine à eux.
D'accord.
Et on a maintenant des éditeurs qui font cet effort de demander à ce que les auteurs fournissent ce qu'il faut pour que les pairs, justement, qui review l'article, qui relisent l'article, puissent refaire tourner eux-mêmes en indépendance ce qui a tourné initialement chez l'auteur.
D'accord.
Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait. C'est la tendance du moment, c'est d'intégrer la reproductibilité dans la revue par les pairs. Donc l'idée, c'est vrai qu'effectivement, dans le journal propose pas seulement un article, les mots et des figures sur papier ou en électronique, mais propose en plus un environnement de calcul qui permet aux gens de suivre, refaire les calculs, obtenir les mêmes choses, et après se dire que bon, si je peux obtenir les mêmes choses, je peux aussi modifier un paramètre, voir ce que ça fait, jouer un peu avec ces résultats-là. C'est en cours, il y a des premières revues qui s'y mettent, c'est effectivement très difficile, techniquement parlant, de vérifier un calcul.
D'accord. Donc c'est relativement, si je comprends bien, c'est relativement récent le fait que les revues demandent aux auteurs ou autrices d'articles scientifiques que ces personnes mettent à disposition de quoi finalement refaire l'expérience.
Ouais. Bah, aujourd'hui, je dirais que s'il y a une dizaine de journaux qui le font, c'est beaucoup. Sur des milliers qui existent quand même, donc c'est vraiment une petite goutte.
C'est une petite goutte, d'accord. Mais alors pourquoi alors ?
C'est très difficile. Il y a des revues qui ont tenté de s'y mettre, qui ont fait des annonces, les grands surtout, et qui se sont rendus compte que c'est pas facile du tout. Parce que premièrement, les auteurs n'ont pas l'habitude de mettre à disposition leur environnement de calcul, documenter leurs calculs pour qu'on puisse les refaire. Après, l'évaluateur derrière, le pair qui est censé évaluer, il doit avoir une certaine compétence du domaine, ça c'est normal. Il doit plus avoir des compétences techniques. Bon, il n'a pas forcément le même ordinateur que les auteurs, donc il y a une friction au niveau des différences des systèmes informatiques. Et en fin de compte, comme tout le monde qui a fait quoi que ce soit avec des logiciels sait que ça prend un temps, ça prend toujours 10 fois plus de temps qu'on estime avant. Et tout le monde est débordé. On nous demande de plus en plus d'évaluer des papiers des autres et simplement, on ne prend pas le temps.
D'accord. Sarah, oui.
Alors peut-être pour compléter, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est assez étonnant, j'allais dire, dans le manque de reproductibilité en informatique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'une température, on ne sache pas la remettre au même niveau. À ce que, voilà, une expérience chimique, on a tous fait des TP à l'école et des fois, le précipité, il n'a pas la couleur qu'on attendait. Et bon, on sourit tous et puis on dit à la prof que oui, c'était bleu, madame, je vous promets. En informatique, on s'attendrait à ce que, bon sang, quand tu fais tourner un même calcul deux fois de suite ou deux fois en une semaine, on obtienne le même résultat. On est en train de faire des maths, normalement 3 plus 3, ça fait 6 et puis c'est tout. Là, en fait, ce qui est vraiment nouveau, et c'est une prise de conscience qu'il y a eu aussi chez les collègues biologistes et autres qui utilisent l'informatique, c'est qu'en fait, la question, elle est plus compliquée que ça. Être capable de reproduire un résultat informatique, c'est un problème difficile.
D'accord. Et le problème existe aussi sur les données, je suppose.
Bien sûr.
C'est complémentaire, les deux, en fait.
C'est ça. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire que quand tu veux que ton programme il soit reproductible, il faut que tu puisses être sûr d'assurer que tu utilises les mêmes données, en gros, avec les mêmes logiciels. Et du coup, bah, normalement, tu vas obtenir les mêmes résultats. Sauf que les données, elles bougent et les logiciels, ils bougent. Et donc, on a ces deux paramètres-là, si j'ose dire, qui vont vraiment avancer dans le temps et tu ne le sais pas forcément.
D'accord.
Bah, en fait, on a tout à l'heure, on a évoqué l'édifice de la science et les logiciels, c'est la même chose, et l'édifice aussi. Hein, il y a un socle de base qui est un système d'exploitation, et après, il y a des couches de bibliothèques, de compilateurs, d'interprètes, toutes sortes d'outils. Hein. Et un chercheur, typiquement, se met en-dessus d'une grosse pile de logiciels et rajoute sa partie méthode scientifique. Et donc, le problème, c'est souvent que quand on parle d'environnement de calcul, c'est tout juste tout ce qui est en-dessous. C'est tout ce qu'il me faut pour tourner mon logiciel. Et ces logiciels qui font le socle de mon logiciel à moi, la fondation, bah, ça bouge, effectivement, comme Sarah a bien dit. Ça bouge dans le sens que les gens corrigent des bugs, rajoutent des fonctionnalités, cherchent à améliorer. Il n'y a aucune mauvaise volonté derrière. Mais en ce faisant, bah, ils font des erreurs. Ils font des modifications intentionnelles qui ont des conséquences non voulues, mais parfois fort désagréables pour les utilisateurs. Et c'est pour ça que si on pense faire le même calcul, et en réalité, on a gardé le sommet de la montagne identique, et tout ce qui est en dessous, ça a bougé pas mal, et en fait, on ne fait pas les mêmes calculs, on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est ça le fond du problème de la reproductibilité computationnelle.
D'accord. Et dans le domaine de la recherche, donc est-ce que vous utilisez des systèmes que vous gérez comme des systèmes comme le grand public, des systèmes libres? Est-ce qu'il y a beaucoup de logiciels je suppose qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont développés à façon entre guillemets, c'est-à-dire dédiés par exemple à une expérience. Est-ce que des chercheurs, peut-être aidés avec des informaticiens et des informaticiennes, développent des logiciels finalement à façon, et est-ce que ces logiciels sont rendus disponibles pour justement tester les calculs qui ont été faits à partir de ces logiciels?
C'est très variable. Je dirais de plus en plus, c'est effectivement ça. Et la recherche ces derniers temps s'est beaucoup inspirée du monde libre. Et d'ailleurs, la science ouverte, en anglais l'open science, c'est vraiment une allusion directe à l'open source. Hein. C'est pas par l'analogie, c'est vraiment voulu de reprendre les méthodes de travail notamment. En contrepartie, on ne peut pas dire que c'est vrai partout. Historiquement, il y a eu des domaines où on a plutôt eu des logiciels faits par les chercheurs pour les chercheurs et du coup libres. Mais pas forcément publié, donc genre je peux l'avoir en demandant gentiment à mon collègue. C'est parfois peut créer des tensions un peu difficiles. On se dit, est-ce que je vais le montrer à ma concurrence, oui ou non? Et sinon, il y a aussi des domaines, notamment de la chimie, où il y a une forte tradition de logiciels propriétaires. Et là, la logique est très différente. C'est pour eux, la confiance dans le logiciel ne vient pas du fait que c'est libre, mais que c'est fait par les professionnels. Donc les gens ont plus de confiance à un logiciel fait par un programmeur professionnel qu'à un logiciel fait par un thésard qui a appris la programmation au cours de sa thèse.
D'accord. Alors je précise que je voulais arriver sur le salon web des personnes, donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le salon web, hein, sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, à poser des questions ou réagir. Hein. Je surveille le salon tout en discutant avec nos deux invités sur ce sujet-là. Tout à l'heure, je ne sais plus laquelle personne a dit que finalement, un calcul fait sur un ordinateur, si on le refaisait ou à un autre moment, le résultat pourrait être différent. Mais pourquoi?
Alors, c'est ça la reproductibilité. C'est que normalement, il devrait être le même. Et c'est ce qu'expliquait là Conrad à l'instant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nos ordinateurs sont devenus beaucoup plus complexes qu'ils ne l'étaient avant. Alors avant, quand ils n'étaient pas reproductibles, c'était des bugs. Ne citons pas certains... J'ai OS qui me vient. Operating System.
Système
d'exploitation, merci. Qui était franchement buggé. Aujourd'hui, c'est plus, comme l'expliquait Conrad, le fait qu'on a le fait d'empiler, en fait, des couches un peu logicielles. On a toujours maintenant des systèmes d'exploitation par-dessus lesquels on va avoir des langages et on va installer ce qu'il faut pour pouvoir les utiliser, par exemple, du Python. À l'intérieur du Python, on a un certain nombre de librairies.
Python, c'est un langage de programmation.
Voilà. Et donc, on va se retrouver quand on veut refaire tourner un programme qu'on a codé précédemment, à devoir s'assurer que est installé sur ma machine tout ce qu'il faut. Sauf que potentiellement, j'ai pu avoir une mise à jour qui s'est faite un petit peu, et du coup, eh ben, c'est plus exactement la même version de Python, et donc j'ai une de mes librairies qui réagit pas comme d'habitude, et ça crache pas forcément, ça ne va pas me dire attention, il y a un problème, mais ça peut changer un arrondi dans un calcul, ça peut changer un comportement logiciel. D'accord. Ça, c'est un exemple un peu gros grain, mais ça fait partie des choses qui sont possibles.
D'accord. Conrad, est-ce que tu as un exemple précis, particulièrement, qui serait parlant de ce phénomène?
Oui, je peux citer un exemple qui a fait un peu de bruit dans mon domaine il y a trois ans.
Rappelle quel est ton domaine?
Mon domaine, c'est la biophysique computationnelle. Donc, une des techniques expérimentales qui est largement utilisée en chimie, en biochimie, c'est la RMN, la résonance magnétique nucléaire, qui sert à identifier les structures de molécules en mesurant l'environnement chimique de chaque atome. Et c'est une technique très bien développée, très stable, bien établie et très routinière. Et il y a donc des scripts d'analyse de données qui produisent immédiatement des choses qu'on veut avoir. Et donc un de ces jeux de scripts qui était largement utilisé a été trouvé un peu défectueux d'une certaine façon il y a 3 ans par une équipe qui s'est rendu compte que ça fonctionne effectivement très bien sous Windows où ça a été programmé, c'est des scripts Python, et ça donne des résultats aléatoires sous Linux. Et donc ils ont fouillé un peu, et la cause du problème, c'était que le logiciel, le script, fait l'hypothèse que si je demande la liste des fichiers dans un répertoire, elle est triée par ordre alphabétique, ce qui est vrai sous Windows pour Python, et c'est pas vrai sous Linux. C'est pas garanti non plus, hein, c'est simplement un malentendu d'une certaine façon. Et comme les auteurs ont testé uniquement sous Windows, ils s'en sont pas rendus compte. Et maintenant, c'est le problème du deuxième niveau. On a des centaines de papiers qui utilisent ces scripts-là. Et évidemment, ils disent pas s'ils ont utilisé Linux ou Windows. Et du coup, on sait pas si on peut faire confiance aux résultats. Donc ça, c'est un cas assez banal, mais assez typique pour ce genre de problème.
Alors, banal, mais un peu effrayant, quand même.
Ah, un peu effrayant, oui.
Surtout pour la personne qui a développé ça, c'est...
Ça, c'est sûr, oui. Et les conséquences aussi pour tous ces gens qui ont investi beaucoup d'efforts pour utiliser ces scripts. Et bon, leur intérêt n'est pas ces scripts-là, et ça fait partie du problème. Leur intérêt, c'est les résultats. Pour eux, c'est quelque chose qu'ils utilisent comme ils utilisent une machine à écrire. Bon, aujourd'hui, ou utilisent un logiciel pour faire leur mail. Ils ne réfléchissent pas forcément à ce genre de logiciel. Ce n'est pas leur centre d'intérêt.
Alors justement, comment se passe la collaboration entre vous qui faites de la recherche et les personnes qui développent ces outils? Ou peut-être que ce sont les mêmes des fois, mais comment ça se passe si par exemple, on est une chercheuse, on travaille sur un domaine, on n'a pas de compétences informatiques, mais par contre on repose sur du développement logiciel, donc je suppose qu'il y a dans l'équipe de recherche une personne qui s'occupe du développement logiciel. Comment ça se passe? Est-ce que vous allez regarder le code quand il est écrit en Python? Comment ça se passe, en fait?
Alors, pour parler de mon domaine, qui est effectivement pas l'informatique, donc on est plutôt physicien-chimiste, les petits scripts du quotidien qui encodent la connaissance du domaine, c'est fait par les chercheurs pour les chercheurs qui n'ont aucune compétence, surtout pas aucune formation en programmation ou informatique ou autre chose.
Donc c'est les personnes qui font la recherche qui développent dans ce cas-là.
Oui, en fait, plus typiquement, c'est des thésards, pour le dire très clairement.
Hein. Okay.
Et après, c'est les collègues qui regardent un peu, mais c'est très informel. À l'autre bout de l'échelle, quand on fait des calculs haute performance, quand je fais des simulations de protéines qui tournent pendant 3 semaines sur un super ordinateur, ce sont des logiciels faits par des équipes qui combinent, quelques chercheurs et surtout beaucoup d'ingénieurs logiciels. Donc, il y a tout là-dedans, entre le tout petit et le tout grand. Et il faut tout ça. C'est pas le même type de logiciel, le même type de travail derrière.
D'accord. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, alors en bioinformatique, on va retrouver un peu des choses un petit peu plus structurées, si j'ose dire, parce que c'est un domaine dans lequel, justement, la création même du mot, c'est des biologistes et des informaticiens, et puis des gens qui sont au milieu, entre les deux, soit qui proviennent de l'informatique, soit de la biologie, mais en tout cas qui parlent un langage commun. Et donc, si on prend l'Institut Curie, l'Institut Pasteur, tous ces grands instituts, on va avoir souvent une direction des systèmes informatiques, donc une DSI, qui va gérer des aspects essentiellement d'infrastructure, s'assurer que tout le monde ait une machine, que les serveurs tournent, etc. Et puis on va avoir des équipes de bioinformatique, des hubs de bioinformatique, dont le métier finalement va être de faire l'interface avec les chercheurs de bio qui produisent des données. Et donc on va avoir vraiment des mécanismes dans lesquels les biologistes vont venir, j'ai fait un nouveau séquençage d'un génome avec une PCR ou autre, comme on entend beaucoup maintenant, les gens sont plus habitués à ce genre de vocabulaire, entre guillemets malheureusement. Comment est-ce que je fais pour assembler mon génome? Comment est-ce que je fais pour extraire des connaissances à partir de ces données? Et là, on a des équipes de bioinformaticiens dont ça va être le métier et qui sont de plus en plus formés aux techniques dites reproductibles, pour faire avec l'équipe A ce qu'ils ont fait avant avec l'équipe B, par
D'accord.
exemple.
Et inversement, donc l'équipe informatique, est-ce qu'elle questionne la provenance des données, l'utilisation des données, la fiabilité des données?
Alors oui, bien sûr, on a maintenant de plus en plus, j'allais dire, de réflexes à avoir, et même dès qu'on demande de l'argent ou autre pour faire de la recherche, on nous demande de remplir des tas et des tas de beaux papiers. Donc c'est tout le problème, il va être là, c'est de pas transformer la reproductibilité en le fait de dire oui, je vous promets, j'ai bien fait ce que j'étais censé faire. Mais plutôt, concrètement, nous aider en nous donnant à la fois des aspects infrastructure et puis du manpower, des gens qui sont bien formés pour faire ces interfaces, finalement, d'ingénierie pour avoir une science et des résultats qui sont plus reproductibles et de meilleure qualité au sens scientifique du terme.
D'accord. Je vais relayer deux remarques, ou plutôt même questions d'ailleurs, sur le salon web. Hein. Alors, on entend beaucoup parler de sobriété numérique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de cet enjeu-ci ? Ici, à force, ne perd-on pas notre capacité à efficacement reproduire ?
Alors là, j'allais dire, il y a presque un... Donc, en fait, quand on parle de sobriété, on peut, face à la reproductibilité, je vois deux points qui sont un peu contradictoires. Le premier, et il va dans le bon sens, c'est on peut se dire, pourquoi je veux reproduire une expérience ? Parce que je veux pouvoir réutiliser, je veux pas réinventer la roue. Je veux partir de ce que d'autres ont fait. Donc du coup, là, on va dans le sens de la sobriété, au sens où, concrètement, voilà, je me base sur ce qu'ont fait les autres et j'évite de refaire. Donc ça va dans le bon sens. Il faut aussi avoir conscience, et j'insiste sur le fait que ça va quand même dans le bon sens, même si c'est que pour pouvoir refaire, il faut que je stocke. Il faut que je garde la trace, il faut que je sache ce que les autres ont fait. Et donc, un des enjeux aujourd'hui de la reproductibilité, c'est justement de pouvoir garder ces traces, et des traces un peu minimales. Ouais. Des traces qui me permettent de garder ce dont j'ai besoin, quitte à refaire une sous-partie des calculs dont l'enjeu est moins grand, et pour lequel je sais que j'aurai pas de problème de reproductibilité. Ça, ce sont des vrais problèmes de recherche informatique en reproductibilité.
D'accord. Alors, comme tu parles de garder traces, je relaye la deuxième remarque, qui est un peu liée. Travaillez-vous avec Software Heritage, qui, en archivant des logiciels, aide a priori à garantir dans le temps de pouvoir reproduire des expériences dans un contexte informatique cohérent ?
Alors oui, bien sûr, on connaît très bien Software Heritage, Roberto, très bien. Tout ça, c'est la même communauté. Mais j'allais dire, donc c'est évidemment la même idée. Il y a cette idée de garder effectivement la trace de l'histoire même, puisque c'est ça l'héritage, des différents logiciels, de leurs évolutions et autres. Bon, nous, on va rajouter une couche d'exécution. C'est pas tant que le code, c'est le code tel qu'il a tourné à un moment donné qu'il faut qu'on ait aussi. Sous quel environnement et avec quelles données. Donc vraiment quelque chose où ça tourne. Dans Software Heritage, il y a une partie fondamentale qui est le quoi, qu'est-ce qui tourne. Nous, ensuite, derrière, il faut que ça tourne et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire des systèmes reproductibles.
D'accord. Conrad, tu voulais ajouter quelque chose ?
On va parler des geeks tout à l'heure et ce sera le moment de revenir sur Software Heritage parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc peut-être on va attendre un petit peu.
D'accord. Écoutez, on va peut-être faire une pause musicale à ce moment-là. Et je signale donc qu'on a parlé de Software Heritage à deux reprises dans l'émission. Donc la dernière fois, c'était l'émission 134. Donc c'était pas avec Roberto Di Cosmo à l'époque. Je ne sais plus avec qui c'était, mais on me le mettra sur le salon web. En attendant, on va faire une pause musicale. Donc je cherche juste la pause musicale parce que elle est là. Nous allons écouter Last Dance par Zero Project. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Love.
écouter Last Dance par Zero Project, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre notre discussion qui porte sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche avec nos invités Sarah Cohen-Boulakia et Conrad Heinsen. Donc juste avant, on parlait de la reproductibilité, on va revenir sur les questions informatiques et puis sur les solutions. Mais il y a un terme dans la préparation qui est venu assez rapidement, c'est celui de la crise de la reproductibilité. Alors c'est quoi la crise de la reproductibilité, Sarah?
Alors quand on dit crise, en fait derrière il y a prise de conscience. Donc là, la crise de la reproductibilité, par exemple dans mon domaine en bioinformatique, mais elle a été concomitante dans beaucoup de domaines à la fois, elle est arrivée à un moment donné où d'un coup, on s'est retrouvé en bioinformatique avec beaucoup de données disponibles qui se sont mis à être analysées de façon un peu systématique. Et donc ce moment-là, il est tombé au moment où on a eu de nouvelles techniques pour faire du séquençage. Avant, le premier génome humain, il a mis des années et des années à être obtenu, beaucoup d'équipes de recherche qui ont dû travailler entre elles et autres, alors qu'aujourd'hui, on séquence, vous l'avez vu, très rapidement un ARN pour un virus et de la même façon un ADN pour si on avait un génome, par exemple un génome humain. Et donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'articles scientifiques, des centaines et des centaines, qui tous disent, finalement, par exemple, obtenir des résultats sur un génome humain ou sur des éléments qui sont basés sur un génome, avec des mêmes techniques et puis les mêmes outils. A priori, quand on lit l'abstract, c'est-à-dire le résumé, quand on va même dans la section méthodologie de l'article, on peut avoir des informations qui nous disent que finalement, il s'est passé la même chose systématiquement. Et pourtant, les résultats sont pas les mêmes. Et pourtant, quand on reproduit un des articles et qu'on essaye de le refaire, on ne trouve pas la même chose. Et ça se passe pas sur un ou deux papiers, ça se passe massivement sur des centaines et des centaines de papiers, alors que pourtant, les données ont l'air claires. On nous parle de l'assemblage du dernier génome humain. Les outils ont l'air clairs. On nous parle de l'outil qui est associé justement à une machine qui fait le séquençage. Tout ça a l'air clair et pourtant, ça ne l'est pas. Et donc c'est là qu'il y a eu cette crise de la reproductibilité qui est sortie même dans les journaux. Le New York Times en 2009 a fait un papier dédié à cette problématique en montrant le nombre d'articles scientifiques et notamment en bioinfo qui étaient rétractés, retirés complètement parce que justement les résultats on n'arrivait pas à les reproduire. Et donc en fait là on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux problèmes de fond. Le premier c'est les données, parler du génome humain comme s'il n'y en avait qu'un unique possible, c'était déjà une erreur. C'est-à-dire ce qu'on appelle le génome de référence aujourd'hui, il évolue, il a plusieurs versions.
D'accord.
Si je ne sais pas sur quelle version je suis, potentiellement je peux avoir des résultats qui sont sensiblement différents. Et puis, toujours ce problème logiciel où finalement j'ai beau dire que j'utilise tel outil, avec quels paramètres, sur quel environnement. Et là, on retombe sur les problématiques que définissait Conrad tout à l'heure. Donc c'est ça qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, où là, d'un coup, on a vu les éditeurs s'affoler, se dire « oulalalala, on va avoir des papiers rétractés, les gens ne vont plus avoir confiance dans les scientifiques, il faut qu'on bouge ». Ça a été, j'allais dire, il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années, vraiment le coup de tonnerre qui a fait qu'on a pris conscience et qu'on s'est mis à construire des outils et à essayer de mieux former sur l'utilisation de ces outils pour avoir des solutions reproductibles.
D'accord. Conrad, là-dessus?
Peut-être pour compléter un peu en dehors de la bioinformatique, effectivement, comme se disait Sarah, cette crise a frappé beaucoup de domaines scientifiques en même temps. Et je dirais que ceux qui n'ont pas été frappés, ça va venir après. C'est un peu inévitable. Donc il y a d'un côté le développement de l'informatique qui est responsable, parce qu'on a trouvé tous ces jolis outils informatiques et on s'est mis « Ah ben je peux faire des tas de jolis projets de recherche avec ». Et c'est après, on s'est rendu compte que, comme pour toute méthode scientifique, il faut aussi une certaine rigueur, on n'a pas toujours adopté. Et en fait, moi je dirais que maintenant, la recherche de la reproductibilité computationnelle, c'est essentiellement introduire la rigueur qui devrait être la norme en science et qui n'a pas été parce que c'était le grand enthousiasme, toute une œuvre de tous ces jouets qu'on nous a donnés. On a joué avec et maintenant on se calme un peu et on fait un peu attention. Mais j'aimerais bien dire autre chose aussi que la crise de la reproductibilité, ça a essentiellement deux composantes. Et nous, aujourd'hui, on parle essentiellement de ce qu'on appelle la reproductibilité computationnelle. Mais il y a un autre volet qu'on ne va pas évoquer, mais il faut quand même le mentionner, qui est la reproductibilité statistique, qui joue aussi un très grand rôle dans la crise de la reproductibilité, dans d'autres domaines, notamment dans la recherche médicale, dans la recherche en psychologie, dans les sciences humaines. Et là, le problème plutôt, c'est aussi un peu lié à l'informatique, parce que les méthodes statistiques à grande échelle, on ne pouvait pas les appliquer sans ordinateur. Donc l'informatique et notamment les ordinateurs personnels ont mené à une situation où à peu près n'importe qui peut, avec deux clics de souris, faire une analyse statistique. Ça ne veut pas dire que cette analyse est raisonnée, est fondée, que la personne qui l'a fait ce qu'elle fait, que les données sont suffisamment bonnes pour extraire des informations qu'on veut. Donc ça, c'est aussi l'autre grand volet de la crise politique qui s'y produit à peu près en même temps. Donc dans le terme en crise et réplicité, on mélange un peu ces deux phénomènes sous un seul étiquette.
D'accord. Donc il y a cette crise, cette prise de conscience, comme dit Sarah. Et donc, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui est mis en place? Et plus globalement, quelles sont les solutions pour justement cette question de la reproductibilité des environnements logiciels pour garantir une reproductibilité des expériences et donc la confiance dans ce qui est publié? Parce que finalement, à vous entendre, on pourrait commencer à douter de ce qui est publié dans les articles. Donc, c'est quoi les solutions qui existent aujourd'hui? Il y a sans doute différentes solutions. Hein.
Il y a une solution qui a un peu motivé notre émission aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, qui s'appelle GIX. Et c'est plus largement l'idée de tous ces outils qu'on a créés ces dernières années pour maîtriser les environnements logiciels. C'est une gestion. C'est simplement un meilleur traçage de ce qu'on fait. Traçage de provenance des logiciels, et Sarah va me dire que les données aussi, moi je ne suis pas trop dans les données expérimentales, mais le problème de fond est le même. Donc plutôt que dire que je fais un script et je lance avec Python 3.8, c'est ce que ça me dit quand ça lance, je dis attention, c'est Python 3.8 compilé avec GCC 7 ou avec GCC 6. Bon, évidemment tout le monde se dit que ça ne devrait pas faire de différence, oui je suis d'accord, ça ne devrait pas, mais on a trouvé que de temps en temps ça fait une différence, et ce serait mieux de le noter au cas où quelqu'un trouve 2 ans plus tard que la différence est importante, il vaut mieux que je la note dès aujourd'hui. Et donc l'idée de tous ces outils qu'on est en train de développer, c'est de tracer précisément chaque étape d'un calcul. Parce que si je me mets, moi je dis mon calcul, c'est je lance un script Python. En réalité, c'est la dernière étape d'un calcul. L'étape précédente, c'était de compiler l'interprète Python. Et si je remonte, ça remonte à 200 octets, quelqu'un a tapé à la main dans un ordinateur. Et de là, on construit couche par couche un environnement logiciel. Donc l'idée, c'est, notamment de Geeks, c'est d'enregistrer tout ça du début à la fin, et pour qu'on puisse les réfaire à l'identique. S'il faut, ça prend beaucoup de temps, mais on peut. Et ça peut être encore un point de revenir à la sobriété qui a été évoquée tout à l'heure. Évidemment, reproduire, ça, refaire, ça sent comme si on refait du travail pour rien, juste pour vérifier que c'est la même chose. Pour moi, le but à long terme, c'est que la reproductibilité n'est pas quelque chose qu'on évolue tous les jours, mais qu'on arrive à un stade où les outils sont tellement fiables que la reproductibilité devienne la norme et qu'on n'a plus besoin de la vérifier. On la vérifie une fois par an pour être sûr que tout va bien, mais pas en permanence comme on fait maintenant parce qu'on est stressé un peu par la crise.
Donc si je comprends bien, l'objectif de ces outils, dont Geeks, dont on va parler un peu plus après, c'est de garder trace de l'ensemble, c'est-à-dire à la fois des différents, comme tu dis, scripts Python, mais aussi de l'environnement logiciel sur lequel il tourne, des données aussi à côté pour être sûr que c'est les bonnes données. Donc quelque part, c'est d'avoir un historique, on dit, cette expérience a été faite tel jour avec telle et telle version de logiciel, et de manière à pouvoir la reproduire. Donc techniquement, on refait un ordinateur, enfin on réinstalle un système, ou finalement il y a des outils un peu plus automatisés qui permettent de quelque part de revenir en arrière. Imaginons qu'on est sur un système avec une version X, mais on vous refait l'expérience d'il y a 6 semaines. Comment ça se passe? Est-ce qu'on réinstalle un nouveau système ou est-ce qu'on est capable de revenir en arrière?
Les deux se font.
Les deux se font.
Et idéalement, évidemment, on n'aimerait pas devoir réinstaller un système, mais ça se fait parce que quand on n'a pas d'autre solution, c'est mieux que rien. Mais l'idée, c'est tout juste d'enregistrer l'historique de la construction d'un environnement logiciel avec l'optique de pouvoir la refaire à l'identique. Et du coup, on peut aussi se dire que si j'ai fait un environnement à un moment donné, après j'ai fait des mises à jour, etc., mais je peux tout à fait envisager de simplement revenir à l'environnement ancien parce que j'ai tout enregistré. Donc je peux simplement, dès mon ordinateur, donne-moi les différences, regarde qu'est-ce qui a changé exactement et reviens en arrière. Ce qui nécessite aussi de garder évidemment une archive de tout ce qu'on a fait. Et là, c'est là qu'intervient Software Heritage. qui est effectivement très importante pour garder la trace du code source, parce que, bon, comme tout le monde qui est dans le monde du logiciel libre, c'est la base de tout logiciel, c'est le code source, pouvoir accéder au code source, lire le code source, compiler le code source. Et là, c'est pareil, reconstruire un environnement logiciel, ça se fait à partir du code source, et la toute première nécessité, c'est de l'avoir enregistré, archivé. Et dans les premiers cas qu'on a eu de la crise de la réactivité en le volet computationnel, le problème principal était les codes sources disparus. C'était des chercheurs qui ont écrit un script, qui l'ont fait tourner, publié le résultat et jeté le code source pour libérer de l'espace sur le disque dur.
Ah oui, donc ils n'ont même pas conservé.
Oui. D'accord. Non, c'est ça. Ils n'ont pas conservé, ils ont jeté consciemment pour faire le ménage. Et donc ça, c'est un état d'esprit qui a complètement disparu. Ça ne se fait plus aujourd'hui.
T'es sûr?
Non, oui, je blague, oui, je suis assez sûr.
Mais ça paraît un peu fou, parce que là, quand on parle de script, c'est pas forcément des scripts très... Enfin, c'est pas des scripts très très longs, enfin, ou en tout cas, c'est pas des gigas et des gigas, c'est des scripts. C'est...
Non. Ben, les problèmes, les gens voulaient. Bon, l'histoire de libérer l'espace disque, c'est parfois. Oui. Ils jettent en fait les grosses données et accessoirement les petits scripts à côté.
D'accord.
En fait, la perte de l'un comme l'autre est un problème. Donc, il faut effectivement tout archiver. Et ça, c'est pas. Non, c'est un état d'esprit qu'il faut développer, il faut des outils, il faut les moyens. Et il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça.
Oui, ils font du ménage dans leur. Dans leur script, comme d'autres font de ménage dans leur mail, alors qu'en fait, ça sert à rien, c'est encore pire qu'autre chose, mais bon. Sarah.
Alors, on a pareil sur les données, effectivement. Hein. L'idée de dire, je vais prendre, par exemple, mes données, puis, bon, bah, je les filtre un petit peu, je les arrange un petit peu, et c'est finalement sur, non pas les données d'origine, mais des données un petit peu modifiées, que je fais tourner mes scripts, et puis je perds une des parties, une de ces variantes de ces données intermédiaires que j'ai générées et que j'ai travaillées. Et donc ça, c'est aussi un des problèmes qu'on va avoir en reproductibilité. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que heureusement, les outils aujourd'hui, ils font le travail pour nous, parce que ce serait particulièrement fastidieux de garder la trace entre guillemets à la main. C'est-à-dire que si le développeur, il est obligé à chaque fois qu'il fait quelque chose de dire ah tiens, et puis sauvegarde-le-moi à tel endroit, et que c'est à lui de penser à tout, on n'en sortirait pas. Pour les données, c'est la même. C'est-à-dire que on a beau être super expert en base de données, se dire qu'à chaque fois que je lance un système, une ligne de code sur mes données, je dois moi en tant que développeur prévoir où doivent être stockées mes données, comment est-ce que je les numérote, comment est-ce que voilà, ça serait particulièrement lourd. Aujourd'hui, on a des systèmes qui gèrent ce qu'on appelle la provenance justement des données, c'est-à-dire leur transformation. Hein, quelque part, quand on fait des analyses de données, on part de données qui sont un peu brutes et puis on va les raffiner, on va les transformer, on va statistiquement extraire un certain nombre d'informations, on va les combiner avec d'autres données. Tout ce pipeline-là, en termes de données, eh ben, il peut être aussi capté par certains environnements pour le développeur.
D'accord.
Et ça, c'est nouveau.
Ok, et t'as des noms de logiciels qui font ça ou est-ce que...
Alors,
j'ai des trucs en tête, mais je suis pas sûr de savoir exactement si c'est les mêmes.
Alors, par exemple, les systèmes de workflow scientifique vont fonctionner de cette façon-là. D'accord. Ils ont ce qu'on appelle des modules de provenance qui vont capter ce type d'informations, par exemple. Au niveau logiciel, on l'a pas prononcé jusqu'à maintenant. Je veux pas me faire jeter des. Mais bon, on a aujourd'hui quand même tous les environnements qui sont ce qu'on appelle à base de containers, dans lesquels en fait quelque part on prend une photo, on freeze l'état de la machine telle qu'elle est à un moment donné, et c'est dans cet état congelé, si j'ose dire, qui n'évolue plus, qui reste tel qu'il est, qu'on s'assure qu'une expérience peut tourner au fur et à mesure. Mais ça, c'est des solutions qui marchent à un moment donné, si je veux reproduire à l'identique. Ce que disait Conrad tout à l'heure, c'est que pour que la science avance, c'est un premier pas d'avoir l'identique. Ce qui nous importe, nous, c'est de regarder un petit peu ce qu'on appelle la robustesse d'une approche, c'est-à-dire s'autoriser à dégeler un peu les choses, à faire évoluer un certain nombre de ces logiciels, peut-être même à bouger une sous-partie de nos données pour voir est-ce que le résultat scientifique, il dit toujours que, par exemple, ces trois gènes sont bien associés au cancer du sein. Est-ce que ça, c'est un résultat scientifique qui est toujours vrai? Ou est-ce que dès que je bouge un tout petit peu 5% de mes données, eh ben, patatras, ça tombe par terre? Ça joue aussi dans la véracité, dans la confiance qu'on peut avoir dans un résultat scientifique.
D'accord. Alors, je suppose que tu parles que pour la vérification, la revue par les pairs, cette notion de container, donc une sorte d'environnement logiciel, comme tu dis, figé, qui englobe tous les scripts, tous les process nécessaires, etc. On peut quelque part transmettre ce container à une autre équipe qui va l'installer sur son propre système et pouvoir vérifier. Oui, est-ce que c'est faisable
tout
avec
à fait.
Une garantie importante?
Tout à fait. Par exemple, dans l'Institut français de bioinformatique qu'on a en France, ils ont un cloud dans lequel il y a un certain nombre de ces machines virtuelles de type container qui sont proposées à la communauté pour que les gens puissent travailler dans un environnement qui soit comparable, pour que différentes équipes en France puissent comparer leurs résultats parce qu'ils les ont obtenus dans un environnement informatique qui est pour le même tout le même.
D'accord. Alors question, est-ce que ces conteneurs, ces outils sont en libre? Je pose la question parce qu'en fait, dans la confiance aussi, puis je pose la question parce que je sais qu'Onrad a envie de parler de ça aussi, on a préparé l'émission, mais là on parle d'outils, on n'a pas précisé s'ils étaient libres ou privateurs, mais le fait d'avoir des outils libres, ça aussi permet de voir le code source, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ces logiciels, alors que dans le cadre privateur, ça serait des conteneurs, bah des boîtes noires. On ne saurait pas, en fait, finalement, on devrait faire confiance, quoi. Donc, quelle est la relation entre, justement, cette reproductibilité des environnements logiciels et le logiciel libre?
Bah, alors, premièrement, les conteneurs, donc la technologie qui permet de faire fonctionner les conteneurs, ça ne fait pas du Linux. Donc, c'est du libre, il n'y a pas de question.
D'accord.
Après, il y a des logiciels qui font l'administration des conteneurs, qui me permettent de construire et faire tourner, etc. Là, il y a des libres, du un peu moins libres, il y a un peu tout. Et après, il y a le contenu du conteneur. Donc, une image de conteneur que je distribue contient plein de logiciels en état compilé binaire. Et ça peut être libre ou pas. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Et on se rend assez régulièrement compte que quand il y a un problème de reproductibilité, assez souvent, c'est effectivement le non-libre qui pose problème. Personnellement, j'ai eu une expérience de ce type-là. Je suis partie de l'équipe rédactionnelle d'une revue en ligne qui s'intéresse à la reproductibilité. Et donc, on a eu à un moment donné une soumission dont on ne pouvait pas vérifier la reproductibilité, contrairement à nos habitudes, parce que ça s'était basé sur un conteneur d'NVIDIA pour les GPU. Bon, je suis sûr que vous n'avez pas, c'est pas grave.
C'est
des cartes graphiques. Hein? Donc, NVIDIA est un fabricant de cartes graphiques qui propose des pilotes pour ces cartes graphiques qui ne sont pas libres. Donc, ils proposent des conteneurs tout prêts avec leur pilote dedans. Et on peut se baser là-dessus et faire son conteneur en modifiant celui d'NVIDIA. Bon, c'est très bien. On peut le diffuser. Mais bon, après, c'est NVIDIA qui fait évoluer ses pilotes et ils ne font pas une archive des anciennes versions. Et du coup, ben, on s'est retrouvé avec quelque chose qui, 6 mois après le calcul d'origine, n'était plus reproductible parce que NVIDIA avait modifié sa chaîne d'outils et c'était fini. Là, c'était carrément un problème du propriétaire parce que si c'était du code source libre, ben, on l'aurait trouvé dans Software Heritage.
Ouais. Voilà. Marie-Odile, sur le salon web, a une question. Ces conteneurs sont-ils en France?
Alors,
je pense qu'elle fait référence à l'hébergement notamment des données.
Ce ne sont pas des objets physiques. Des conteneurs, oui, voilà.
Oui.
Ils sont nulle part.
Ils sont des machines.
Ils sont des machines, mais bon, on peut les copier facilement. Donc, la question dans quel pays ils sont, on n'y réfléchit pas.
C'est un peu comme un gâteau avec une recette. Ouais. On a la recette du conteneur. C'est quelques lignes, ça. Ça peut être. Enfin, c'est tout petit. Et ensuite, le gâteau, eh ben, on le fabrique sur son propre ordinateur.
D'accord. OK. Donc là, on parlait de conteneurs. Geeks. Ça semble être différent. Alors, je précise que Geeks, ça s'écrit G-U-I-X.
Ouais.
Et on parlera tout à l'heure après des journées Geeks, mais très rapidement. Donc, défi Conrad, essayez d'expliquer ce qu'est Geeks.
Oui, en fait, c'est la partie la plus difficile parce que c'est plein de choses qui sont liées, mais on comprend le lien seulement quand on est à fond des dents. Et pour plus de gens, ça s'arrête avant. Alors, Geeks, si vous regardez sur le site web de Geeks, ça se présente comme une distribution de Linux. Ça se prend comme un gestionnaire de paquets. Donc là, gestionnaire de paquets veut dire qu'un paquet, c'est une unité de distribution de logiciels. Et donc, Geeks fait partie des gestionnaires de paquets. Il y en a d'autres. Il y a Debian à son système APT, par exemple. Bon, je crois que pas mal des auditeurs connaissent l'un ou l'autre des gestionnaires de paquets. Donc, Geeks en est un autre. Geeks est aussi, et c'est pas tellement mis en avant sur le site, aussi un gestionnaire de conteneurs. Donc, le plus connu dans le monde parmi les chercheurs s'appelle Docker, c'est le plus connu en général, mais c'est un gestionnaire de conteneurs qui est fait pour le déploiement de systèmes logiciels à l'échelle industrielle. Mm. C'est pas fait spécifiquement pour la recherche pour la reproductibilité. Donc, Geeks est un autre gestionnaire de conteneurs qui peut coopérer avec Docker. On peut, par exemple, créer une image Docker avec Geeks, par exemple. Mais du coup, ça devient reproductible. Donc, Geeks est plus l'outil, comme les SRA, c'est plus l'outil qui applique la recette et en fait le gâteau. Donc Geeks c'est encore compliqué parce que Geeks c'est deux choses en même temps. Geeks est le robot qui fait la cuisine, mais c'est aussi la collection de recettes. C'est tout en un. C'est tout en un pour une très simple raison. C'est pour tout juste éviter qu'il y ait une perte de cohérence entre les recettes et le robot qui fait la cuisine. Ah, j'aime cette image. Je souhaite le robot de cuisine, c'est vraiment pas mal comme description pour Geeks. Mais on travaille toujours d'ingrédients de base. Donc, le robot de cuisine Geeks, il prend que du code source et fabrique des gâteaux de plus en plus compliqués. Donc, il fait d'abord une couche de biscuits, après la crème chocolat, et fait le rouleau, tout ça, il le coupe en tranches et assemble ça, etc. Donc, tout ça, c'est fait étape par étape.
D'accord. Alors, je précise qu'on parle notamment de Geeks, déjà parce que c'est une des solutions à la question de la reproductibilité, et également parce que, donc, en fin de semaine, donc, du 16 au 18 septembre, à Paris, ont lieu les 10 ans de Geeks, donc Geeks a déjà 10 ans, et que vous êtes, Sarah et toi, Conrad, intervenants et intervenantes dans ces journées. Alors, l'un des organisateurs, donc Tanguy, qui est à côté de nous, nous dit que les salles sont pleines, mais vous pouvez encore venir. Par contre, on prévient quand même que, voilà, c'est quand même dédié à des gens qui ont envie de comprendre effectivement ces choses-là. C'est pas forcément. On va pas dire que. Je pense pas que quelqu'un qui aujourd'hui utilise une distribution libre pour faire de la bureautique ou autre chose va. Cette personne va utiliser Geeks? Non. Donc c'est plutôt un public, effectivement, soit de chercheurs, soit aussi d'industriels, finalement, parce que finalement, la question de la reproductibilité dans la recherche et dans l'industrie, c'est assez proche.
Juste pour faire des Geeks, alors les journées Geeks s'adressent quand même un peu à une certaine expertise technique. Donc d'accord. Même quelqu'un qui veut se lancer dans Geeks, c'est pas ces journées-là qui font le tutoriel pour les débutants.
Donc c'est rencontres plutôt de personnes de Geeks, en fait.
Oui, c'est pour la communauté Geeks. Et pour les gens qui s'intéressent à des sujets connexes comme la reproductibilité en recherche, qui est le sujet de la première journée vendredi, mais ça s'adresse plutôt aux développeurs geeks et aux gens qui sont peut-être intéressés à devenir développeurs, qui sont utilisateurs et veulent faire le pas pour devenir contributeurs. Donc c'est ça le public visé, c'est pas les débutants.
D'accord. Mais ceci dit, donc vendredi, j'ai bien retenu, si vous voulez entendre parler Sarah et Conrad de reproductibilité et les rencontrer, vous pouvez venir. Et peut-être le week-end, éviter de venir, sauf si effectivement ça vous a donné envie.
À Lyril, oui. Sinon, on a appris ce matin qu'il y a une transmission directe en vidéo. Et évidemment, tout sera enregistré aussi. C'est moins bien que nous rencontrer en vrai, mais c'est quand même pas mal.
Effectivement, Tanguy nous a dit que c'était transmis en vidéo. Donc, c'est donc du 16 au 18 septembre à Paris, donc à Lyril. Donc, c'est à Jussieu, c'est ça, Lyril?
À Jussieu, oui.
Et de toute façon, toutes les informations sur le site libreavoue.org. Et en tout cas, on souhaite un bon anniversaire. Vous transmettrez, cher Tanguy, un bon anniversaire à Geeks et aux équipes qui développent Geeks, parce que 10 ans, c'est... Voilà, merci.
Mais pour revenir rapidement à la question de l'industrie, etc., effectivement, la question de la reproductibilité concerne d'autres domaines que la recherche. Il y a par exemple l'histoire de la cybersécurité, pour être un grand client de ces techniques, par exemple c'est Bitcoin. Parce que ce qui est important, si on veut faire confiance au réseau Bitcoin, que ça tourne réellement le logiciel Bitcoin et pas un logiciel truqué. Donc du coup, on est intéressé à mettre en public pas seulement le code source, mais aussi la recette qui produit le gâteau à partir de la recette. Donc pour valider que pas seulement la recette est la bonne, mais aussi que la recette a réellement été appliquée et pas une autre.
D'accord.
Il y a des domaines complètement différents aussi. Par exemple, j'ai souvent parlé avec des chercheurs chez EDF, EDF Recherche, pour lesquels la reproductibilité des calculs d'évaluation des centrales électriques s'impose parce que c'est une obligation légale. Donc quand ils utilisent des logiciels pour des calculs pour prouver que leur centrale respecte certaines normes, ils doivent fournir la preuve de reproductibilité des calculs. Donc il y a la même notion qui se présente dans d'autres domaines où on veut pouvoir vérifier qu'un calcul fait qu'est-ce que son auteur affirme que ça fait. D'accord. Donc ça, c'est pas que de la recherche, non.
Ok. Sarah, oui,
alors
aussi.
Peut-être pour compléter, de façon plus générale, en industrie aujourd'hui, parce qu'on a changé en fait de façon de programmer, on programme plus comme il y a 15 ans, notamment dans les industries on utilise beaucoup de microservices, des nouvelles façons de construire des architectures logicielles, des environnements comme Docker ou autres sont omniprésents dans vos données bancaires, dans vos données médicales, bien sûr il y a ce type de structures qui sont derrière. Donc voilà, c'est plus pour rassurer les auditeurs. En recherche, on se pose des questions de fond sur comment rendre nos environnements reproductibles et plus facilement manipulables tout en étant reproductibles. En industrie et autres, la reproductibilité sur des choses qui sont faites de façon journalière, quotidienne, où c'est un peu tout le temps les mêmes processus qui tournent, évidemment que ça c'est reproductible.
D'accord. Et est-ce qu'il y a la reproductibilité informatique à 100%, ça existe ou ça existera ? Est-ce qu'on pourra être sûr
Tout dépend quel effort on est prêt d'investir. Donc la question, c'est plutôt pas si c'est possible, mais si les moyens valent l'effort. Parce que là, nous, on a parlé d'environnement logiciel. Pour tout ça, il faut du matériel. Il faut un processeur qui est compatible. Je peux tout ma belle pile logicielle, si en bas, à la base, je n'ai pas un processeur qui peut l'exécuter, je fais rien avec. Bon, là, actuellement, la plupart des gens, c'est dans les processeurs Intel ou compatibles et qui sont à tous les coins de rue. On n'a pas trop de peur que ça disparaisse, mais bon, je suis assez sûr que dans 50 ans, on n'en parlera plus des x86. Donc, après, on peut passer dans les machines virtuelles. Et est-ce qu'ils sont réellement compatibles avec les processeurs d'origine? Voilà. On peut toujours pousser plus bas. Ça, c'est une des dimensions où il y a une limite à un moment donné par l'effort qu'on veut faire. Parce qu'évidemment, je peux toujours demander à quelqu'un qui sait faire des puces de me refaire un processeur Intel à l'identique. Hein. Mais si j'ai des moyens de les payer pour ça, c'est pas impossible, mais on va pas le faire peut-être. Et pareil, la question se pose aussi pour tout ce qui échange sur les réseaux. Est-ce que je veux réellement archiver tout ce qui se passe sur Internet? Il y a des choses qu'on veut archiver, il y a d'autres, c'est éphémère, on va laisser tomber. Donc ça aussi, tout a un coût et il faut se poser la question jusqu'où on est prêt à aller. Donc à mon avis, le 100% reproductible est un idéal, on peut se rapprocher tant qu'on veut, mais vraiment arriver au bout, non, je crois pas.
D'accord. Alors il reste très peu de temps avant la question finale, donc est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant la question finale? Quelque chose qu'on aurait oublié, on a forcément oublié des choses, non?
Non, je crois qu'on a été... ça s'est bien emboîté, si j'ose dire. Et d'accord, du coup, on rajouterait du bruit, je pense, si on venait sur autre chose.
Alors, on ne va pas rajouter du bruit, on va rajouter de la synthèse. Chacun et chacune, en moins de 2 minutes, quels sont les éléments clés à retenir de l'émission? Qui veut recommencer? Sarah.
Allez-y. Alors, donc, moi, je dirais que le manque de reproductibilité, si on veut parler, si on veut faire un wrap-up un peu, donc c'est un problème qui va être omniprésent aujourd'hui, parce que l'informatique est omniprésente dans notre société, et ça dépasse complètement le contexte de la recherche. Même si l'émission d'aujourd'hui était sur le contexte de la recherche, cette problématique, elle est présente partout. Et je dirais qu'il est urgent d'agir, d'abord dans le fait d'informer, donc c'est ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui et qu'on essaye de faire globalement dans les journées qui sont organisées un peu de plus en plus généralement, et former. Informer, c'est bien, mais il va nous falloir former. Former d'abord des enseignants à savoir ce que c'est que ces outils, ce que c'est que cette crise de la reproductibilité, les enjeux, les problèmes qui sont posés aujourd'hui par ces environnements informatiques, et bien sûr former des enseignants qui vont à leur tour former des étudiants. Et donc là-dessus, on manque de bras, on manque de personnes prêtes à venir dès, j'allais dire, le début de la licence, dès les premières années post-bac, dès qu'on manipule une machine, il est très important qu'il y ait cette prise de conscience qui soit faite.
D'accord. Merci Sarah. Conrad ?
Oui, moi je vais prendre un peu un autre point de vue complémentaire, c'est que pour moi la reproductibilité fait partie des labels des qualités d'une certaine façon, c'est comme on a maintenant les normes ISO pour n'importe quelle partie de la production industrielle, dans le monde du calcul de l'informatique, dans tous ces contextes, la reproductibilité devient à mon avis un label de qualité, une preuve de rigueur qui ne dit pas que ce qu'on fait est vrai, ni faux, c'est pas ça, mais qui donne confiance. Et dans ce sens-là, il faut effectivement encourager, c'est bien de parler aux jeunes, il faut déjà parler aux chercheurs en cours, il faut leur expliquer que la rigueur fait partie de la méthode scientifique. Et il y a aussi une obligation morale à tout moment de tout bon chercheur d'améliorer ses pratiques. Donc moi je vois, ça c'est un peu dans ce sens-là, je vois beaucoup de collègues qui disent que la reproductibilité c'est du travail, on a déjà trop de choses à faire, on n'a pas le temps, etc. Si je n'ai pas le temps de m'améliorer, est-ce que je devrais faire de la recherche ou pas? Évidemment, je connais parfaitement les problèmes, je ne veux pas minimiser les difficultés, mais je trouve qu'il faut mettre en avant cet aspect de qualité, de rigueur qui fait partie de la démarche scientifique.
Écoute, merci. Je vais juste préciser donc que Sarah est une de, je sais pas si c'est une vingtaine de décodeuses du numérique. En tout cas, le CNRS a publié une petite. Alors c'est une bande dessinée qui présente des chercheuses dans différents domaines. Alors c'est présenté, c'est un portrait qui est présenté sous forme de BD, donc et avec un petit résumé de la vie de la personne, des problèmes qu'elle a pu avoir quand elles étaient à l'école, et c'est malheureusement des problèmes que les femmes ont beaucoup. Je le conseille, je crois qu'il vaut 6 euros, c'est ça. Donc on mettra le lien sur le site web libreavoue.org. Ça s'appelle les décodeuses du numérique et c'est vraiment et c'est accompagné aussi de ressources pour être utilisées dans les écoles.
Il est en libre, hein, totalement. Ah, tout le PDF, vous pouvez l'imprimer chez vous si vous le souhaitez.
Il est totalement en libre, effectivement. Donc voilà, j'étais ravi de recevoir Sarah dans cette émission. Donc nos invités étaient Sarah Cohen-Boulakia et Konrad Insen sur donc, la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Je remercie évidemment Tanguy Le Carreau pour l'aide proposée et apportée sur la préparation de l'émission. Je le félicite et je lui donne beaucoup de courage pour les dernières heures de préparation de la journée Geeks qui a lieu à Paris donc du 16 au 19 septembre 2022. On mettra évidemment les références sur libreavoue.org et ça sera diffusé en ligne également pour les personnes qui voudraient s'intéresser. Je rappelle que Konrad et Sarah seront partie des personnes intervenantes lors de ces journées. Vous intervenez quel jour ?
Le premier, vendredi matin.
Oui. Le vendredi. Vendredi, c'est la journée de la recherche.
D'accord. Ben, allez, la journée du vendredi. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci beaucoup.
Nous allons faire une pause musicale. Alors, je disais, nous allons faire une pause musicale. L'artiste que nous allons écouter est Jazzar. Pour Jazzar, la musique est surtout un moyen de recréer un souvenir ou une ambiance. Cet artiste est originaire de Riron et depuis cette ville centrale de la Costa Verde en Espagne, il n'hésite pas à voyager pour découvrir les capitales européennes. Et on aime bien Jazzar dans l'émission car de nos jingles, c'est de la musique de Jazzar. Sometimes, c'est les virgules de transition et Waiting Room, on l'utilise uniquement quand on a des problèmes techniques, c'est-à-dire que vous ne l'avez jamais écouté jusqu'à présent, puis quand on est toujours sorti. On va écouter Big Sea Goes to LA, on se retrouve dans moins de 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la joie des possibles.
Cause commune.
Alors, nous venons d'écouter partiellement Big Sea Goes to LA par Jazzar, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, tout simplement parce que nous avons un tout petit peu de retard pour le sujet suivant, donc voilà pour ne pas le couper.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au dernier sujet. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, et en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être, au particulier, et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant La Voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette. Le titre de la chronique du jour, enregistré il y a donc quelques jours, Common Voice, la voix de son maître.
Hello Laurette, ce n'est pas un peu soudain ce départ pour l'Espagne dans le cadre de tes études ? Tu en avais parlé à tes parents au moins ?
Ouais, je mûris juste le projet depuis plusieurs mois et en parle régulièrement, oui. Mais bon, j'en arrive à la conclusion que parler à quelqu'un qui joue en même temps à Shattered Pixel Dungeon, ça rend amnésique. Je suis pas sûre que la dernière étude de l'université d'Oxford sur le jeu vidéo explore cette piste.
Waouh, je viens de Toleyok Zea, le boss final pour la 8e fois dans cette version du jeu, et pour la 2e fois en chasseresse. Là, tu respectes ton père, hein. Mais Oxford, c'est en Angleterre, je croyais que tu partais en Espagne.
Oui, mais oh, bon, Badaros, c'est un peu le Oxford espagnol, tu vois.
Si tu pars de septembre à janvier, comment va faire ton pauvre père pour enregistrer cette merveilleuse chronique tout seul? Ouais, je peux peut-être essayer d'imiter ta douce voix. Écoute, je t'imite quand tu avais 9 ans, fatigué après avoir réussi à dessiner Tux, la mascotte de Gnu Linux.
Non mais Gnu, c'est pas contre toi, c'est juste que t'es trop difficile à dessiner.
Oula, on sent que c'est les vacances là pour toi, hein. Tranquille oubilou, les orteils dans le ventilateur du processeur. On dirait que tu meubles un petit peu en cherchant en même temps le sujet de ta chronique quand même, hein. Tu veux parler de quoi en fait?
De mon cœur déchiré de papa de te savoir bientôt aussi loin. Bon, il va falloir que nos moyens de communication de qualité libre et redondée fonctionnent. Ça me donne l'occasion de revenir sur le mail auto-hébergé que je te proposais et sur ta phrase de la dernière chronique.
Tu me garantis que je ne vais pas perdre de mail?
Oh non, dis-moi pas que j'ai perdu des mails importants et que, comme j'ai pas répondu, les 10 millions d'euros que me proposait ce fameux prince saoudien en exil contre seulement 500 euros de ma poche me sont passés sous le nez.
Non, c'est pire. Tu as raté un message de Stéphane Bortsmeyer pour lequel tu étais en copie. Je cite.
Au fait, Laurette ne reçoit pas mes messages en raison d'une erreur de configuration de son hébergeur de courrier, qui utilise une liste noire états-unienne mal gérée.
Oh oh, mais en l'occurrence, il s'agit de ton hébergeur de courrier. Il va falloir que tu me résolves ça, papa. Sinon, on risque des perturbations dans la force de la communication.
Oui, on touche du doigt le quotidien de celles et ceux qui ont à gérer artisanalement des serveurs de mail. Il faut montrer patte blanche, signaler que l'on est gentil, le redire souvent et faire attention aux messages d'erreur que l'on reçoit et qui ne sont pas toujours aussi limpides que la goutte de Mirabelle distillée qui sort de l'alambic. Je vais le signaler à Neutrinette, mon hébergeur.
Tiens, en parlant d'alcool, on pourrait grave faire une chronique avec genre une analogie, un octet égale une goutte d'alcool de Mirabelle, et montrer comment la quantité de données augmente chaque seconde dans le monde. Oh, ce serait très démonstratif, non? Et puis super original aussi.
Romantique ou Mirabelle ancestrale, c'est juste le parfum de l'analogie qui change, mais je peux illustrer cette forme d'inconscience de la taille des données dans la vie quotidienne avec une mésaventure extraordinaire arrivée récemment dans les contreforts des internets.
Oh oui, raconte-moi comment tu as aidé une chouette colonie à publier articles et photos des petits loupios et loupiottes qui y batifolaient.
Oh, j'ai fait simple. J'ai recommandé de prendre un service clé en main proposé par un hébergeur ayant pignon sur rue de vélo. Il y avait 1 giga d'espace, réaliste pour 2 semaines d'activité de colonie.
Ah bah oui, puis en supposant que les photos déposées tournent autour du mégaoctet, on va négliger ici les textes devant le poids des images, et puis on va supposer qu'il n'y avait pas de vidéo à déposer. Ça laissait la possibilité d'exposer 1000 photos en 2 semaines, ce qui est très raisonnable.
Mais c'est sans compter le paramétrage par défaut des appareils utilisés. Alors qu'une image d'un mégaoctet suffit largement pour un affichage très honorable sur un écran de grande taille, on oublie la compétition technologique entre marques. Regardez, je fais les plus grosses photos, j'ai 3 objectifs et je suis tout vert, achetez-moi! Il est alors courant d'obtenir par défaut des images tournant autour de 5 mégaoctets, et parfois c'est même 8 à 10 mégas.
Et bam! On passe de 1000 photos à 200 si on dépose comme un joli petit cochon rose les photos sorties directement de l'appareil. Pas étonnant qu'on atteigne alors la capacité maximale de l'espace disque attribué dans ces conditions. Mais du coup, quelle voie doit-on suivre si on veut quand même un joli site de colonie de vacances avec toutes les photos qui vont bien?
Oh, plein de choix s'offrent à toi. Il y a d'abord la technique Ovino-consommatrice, appelée aussi technique Windows Apple. Tu as un nouveau besoin? Tu rachètes. Et si tu as les moyens, bien sûr, sinon tu craques. De tristesse, hein. Et en plus, si tu rachètes, tu seras dans le vent avec un appareil aux couleurs de l'été. Là, en l'occurrence, dans notre exemple, consommer ovinement consiste à payer pour un hébergement plus cher, mais avec plus d'espace.
Mais c'est finalement une autre voie qui a été choisie, celle de réduire la taille des photos déposées sur le site, tout simplement.
Oh, bande d'anticapitalistes, ce n'est pas joli joli cette consommation raisonnée. Mais revenons à nos ovins de Bourgogne. Comment allons-nous communiquer quand tu seras en Angleterre ibérique? D'abord, je t'en prie, on évite les vocaux, hein. Il semble que c'est une pratique hyper développée. Instagram et Snapchat, entre autres, ont remis au goût du jour le répondeur de mamie. J'imagine que c'est parce qu'il n'y a plus de cassettes à bande magnétique que cet usage passe pour une disruption majeure.
D'autant qu'il n'y a rien qui change. Hein. J'ai un pote qui m'a dit que ça le saoulait d'écouter ce genre de message, que c'était trop long. Comme quand on rappelle les gens qui nous ont laissé un message sans écouter ce qu'ils ont déposé. Hein. On pourrait se poser la question, par contre, de savoir pourquoi cette fonctionnalité a été poussée et pourquoi elle est utilisée alors qu'un message audio est de l'ordre de 100 à 1000 fois le poids du texte équivalent.
Oh, je vois plein de raisons. Et comme tu es perspicace...
Et m'inspirez par...
Je suis sûr que tu peux en évoquer au moins une ou deux.
Bah, c'est déjà un moyen de contourner le problème pour les personnes qui sont pas à l'aise avec l'écrit, par exemple. Mais on pourrait aussi y voir la volonté pour les réseaux sociaux d'attirer les plus jeunes qui n'utilisent pas de clavier.
Pas mal. Si cette chronique était gamifiante, tu gagnerais une rustine à réinvestir dans notre boutique en ligne pleine d'objets virtuels hyper cool.
Oh, joie. Et puis aussi, en encourageant des vocaux plutôt que des messages textuels, on réalise la prophétie du besoin toujours plus grand d'infrastructures ou de nouvelles technologies, comme la 5G par exemple, pour pouvoir transmettre toutes ces données.
Bravo, encore une rustine pour toi. Bon, à moi cette fois. Sans doute un argument à deux rustines d'ailleurs. Comme d'habitude, les grosses entreprises de la tech offrent de nouvelles fonctionnalités pour leurs propres intérêts, et elles le justifient en argumentant sur l'amélioration de la sacro-sainte expérience utilisateur. Franchement, quand tu entends cette expression, je t'invite à te méfier plus encore que d'habitude.
Oui, bah, cette expression est très incomplète d'ailleurs. Elle devrait être affichée plus transparente, du style « Cette fonctionnalité est faite pour améliorer votre expérience utilisateur, mais bon, surtout notre chiffre d'affaires que l'on prend soin d'optimiser fiscalement. »
Si on prend l'exemple de Discord pour les appels vocaux, je cite directement la FAQ. Que fait CRISP sur Discord? Nous avons intégré CRISP pour améliorer encore plus notre expérience des appels vocaux. Nous utilisons l'apprentissage automatique pour supprimer les bruits de fond qui ne sont pas des voix humaines, comme des aboiements de chiens, les aspirateurs ou les claquements de porte.
Bon, au moins, ils sont honnêtes. Ils écrivent bien notre expérience. Bon, c'est la leur qu'ils veulent améliorer, pas la nôtre.
Effectivement. Et au passage, ça révèle que les conversations sont scrutées. De là à ce que ces données nourrissent leur IA privée. Bon, moi, je préfère les projets qui nourrissent les communs numériques.
Oui, bah justement, parle-moi de Common Voice, ce projet de Mozilla qui te fait lire des phrases bizarres tout seul dans ta chambre, mais qui, oh, je cite le site, aide à apprendre aux machines comment les humains parlent vraiment. Bah bien sûr, avec des projets comme ça, on peut pas devenir une licorne cotée en bourse du jour au lendemain, mais bon, moi je trouve ça quand même plus beau de contribuer au commun.
Ton sens de l'esthétique t'honore. Et puisqu'on est dans les citations, je cite Wikipédia, Common Voice est un projet de myriadisation. Le but est de produire une base de données libre pour la reconnaissance automatique de la parole. Les audios et leurs transcriptions sont ensuite réunis dans une base de données du domaine public sous licence Creative Commons 0. Cette licence permet aux développeurs d'utiliser la base de données vocale pour leurs applications de reconnaissance vocale, sans coût ni restriction.
Et il est soutenu par des volontaires qui enregistrent des phrases avec un microphone et vérifient les enregistrements d'autres utilisateurs, comme toi mon papa.
Oui, alors modeste ma contribution, quand on voit que 22 foufous ont par exemple enregistré plus de 40 000 petites phrases depuis 2017, début de l'existence du projet. Bravo à tous ces contributeurs et contributrices, et aux autres, dont moi, du coup, et qui ont permis jusqu'à ce jour de cumuler 23 gigaoctets de données pour un total de 868 heures validées.
Mais ça sert à quoi tout ça? Qu'est-ce qui pourrait donner envie à une fille comme moi, dont la voix est en plus précieuse pour la base de données en manque de timbre féminin, de contribuer à un tel projet?
Oh, je vais te donner un exemple de ouf. Avec cette base de données, mes petits camarades des CMEA ont proposé un service en ligne libre et gratuit qui permet de transcrire un fichier audio ou vidéo. Tu déposes le fichier, tu donnes une adresse mail et tu reçois quelques minutes plus tard un lien pour ton fichier retranscrit. Au passage, n'hésite pas à aller jeter un œil au site Libre à lire, mis en place et animé par l'April. Outre toutes les transcriptions incroyables, toutes faites manuellement avec les oreilles celles-là, tu comprendras tout l'intérêt de retranscrire les fichiers.
Ah oui, j'ai trouvé, ça s'appelle Scribe, et on trouve cet outil de transcription à l'adresse scribe.cma.org. Et puis pour le site de transcription dont tu parlais, c'est librealire.org. C'était la page de publicité, nous pouvons maintenant revenir à notre histoire.
Qui n'est pas tout à fait finie. Un libriste qui travaille sur un autre projet de foufou, en l'occurrence Scénarii, une chaîne éditoriale, a trouvé que ce serait mieux si l'outil proposait une ponctuation. Il a donc amélioré le programme et rendu tout ça à la communauté. C'est vraiment chouette, ces contributions croisées qui enrichissent les communs numériques.
Bon, c'est décidé, je vais contribuer à quelques phrases lues et écoutées du genre « Au fil des années, l'organisation en viendra à privilégier les espadrilles au pichou.
Bon, je te laisse car si tu veux rattraper les premiers contributeurs et contributrices, tu as du thym sur la branche. La bise, mon espagnol bretonne.
Bisous, mon espagnol breton.
Nous venons d'écouter la chronique de Laurent et de Laurette Costi, donc à cœur vaillant, la voix est libre. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques menus annonces. Alors la semaine dernière, Isabella discutait avec Thében Gerloff de la Fête des Possibles hein, qui se poursuit du 9 au 25 septembre. Le site web c'est fête-des-possibles.org avec plusieurs événements cette semaine à Beauvais, à Lyon et à Paris en fin de semaine. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, journée portes ouvertes au studio vendredi 16 septembre 2022 à partir de 10h. Donc c'est au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e. Mais vous retrouverez évidemment toutes les infos sur le site causecommune.fm. Et la semaine prochaine, vendredi 23, nous aurons un apéro April et aussi Chaprine, notre service en ligne, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, mais vous pouvez noter la date, vendredi 23 septembre, excusez-moi, à partir de 19h. Et je vous invite à regarder le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour retrouver tous les événements organisés en France et même dans certains autres pays comme la Belgique. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Isabelle Carrère, Sarah Cohen-Boulakia, Conrad Insen, Laurent et Laurette Costit. Merci à Tanguy Le Carrour pour l'aide à la préparation du sujet principal. L'émission du jour a été mise en ondes par ma collègue Isabelle Avani. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions par courriel à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 20 septembre 2022 à 15h30 et derrière le micro, il y aura ce coup-ci justement Laurent Costi et moi je serai derrière la vitre à la réalisation. Le sujet principal portera sur le thème « Être responsable libriste d'un système d'information dans une association ». Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 20 septembre et d'ici là, portez-vous bien.